Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Jean-Pierre Foultier, évidemment, nous a rejoint pour cela. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Bon, on a parlé grec, latin, anglais, allemand, russe, basque, notamment dans nos deux dernières chroniques consacrées aux langues de l'Europe. C'est le titre officiel de cette série. Et je vous poserai aujourd'hui une question très brutale, pardonnez-moi, mais quelle est la langue de l'Union européenne ?
Une question directe, en effet, mais complexe, à laquelle je vais tout de même tenter de répondre, Sébastien.
C'est dans le contrat.
Complexe parce que le moyen de communiquer au sein des institutions de l'Union européenne a été très tôt une question majeure. Quelle langue, au singulier ou au pluriel, adopter dans une structure politique qui rassemble dès le départ des pays qui ne parlent pas tous la même ? Le français est aussi parlé par une partie des Belges et des Luxembourgeois, l'allemand, l'italien, le néerlandais. Et ce n'était qu'un début, puisque dans les décennies qui ont suivi, se sont rajoutés d'abord l'anglais et le danois, puis le grec, l'espagnol et le portugais, avant d'accueillir le finnois, l'estonien, le tchèque, le slovène, le roumain, j'arrête là. Bref, de 4, on est passé à 24 langues reconnues finalement comme langues officielles de l'Union européenne.
Bon, 24 langues, on se dit que c'est peut-être beaucoup pour se comprendre.
Bien sûr. Même si 3 seulement sont principalement utilisées comme langue de travail dans les institutions européennes. Le français, l'anglais et l'allemand à la Commission ou dans les réunions du Conseil. La BCE, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, travaille, elle, exclusivement en anglais. Et la Cour des comptes européenne, comme la Cour de justice, majoritairement en français. Le cas du Parlement européen, lui, est particulier, puisque ce dernier se revendique du multilinguisme intégral et qu'il est le lieu privilégié du débat démocratique européen. Je vais simplement reprendre les propos relevés sur son site. Au Parlement européen, chacune des langues officielles a la même importance. Les documents parlementaires sont publiés dans toutes les langues officielles de l'UE et un membre du Parlement européen a le droit de s'exprimer et de rédiger dans la langue officielle de son choix. Grâce à ce système, chaque citoyen et citoyenne peut suivre et consulter les travaux du Parlement européen. Fin de citation.
C'est toujours tellement agréable de voir les présidents français parler anglais, en règle générale. On ne s'en lasse pas. Alors, vous nous expliquez comment tout ça fonctionne ?
L'écrivain et linguiste italien Umberto Eco a dit un jour « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». Aussi, c'est un contingent fourni de 600 traducteurs et de 300 interprètes qui assurent la communication dans toutes les langues officielles de l'UE. Les interprètes traduisent en direct les discours et prises de parole lors des différentes sessions du Parlement et chaque député peut sélectionner la langue dans laquelle il souhaite les recevoir dans son casque. Les traducteurs, eux, doivent transcrire dans toutes les langues des textes juridiques qui ne doivent laisser aucune place à l'approximation. Un travail colossal, donc, car du fait du nombre de langues différentes, on compte pas moins de 552 combinaisons linguistiques possibles. L'activité de traduction qui, selon les souhaits de la récente présidence française du Conseil de l'Union européenne, doit bénéficier plus des progrès de l'innovation numérique. Un multilinguisme qui nécessite des adaptations donc, mais qui constitue une richesse.
Une richesse, là où on voit peut-être plutôt de la complexité.
S'il est vrai que par le passé, de nombreux États se sont forgés en essayant d'éradiquer les parlers locaux ou régionaux, on sait qu'il est interdit de parler breton ou occitan à l'école, l'Union européenne s'est constituée, elle, sur le principe inverse. Sa devise, que je rappelle souvent ici, étant « unie dans la diversité », ce qui signifie non pas que nous sommes ensemble malgré nos différences, mais que nous sommes unis grâce à nos différences et que les nombreuses cultures, traditions et langues que compte l'Europe constituent ainsi, je cite, « un atout pour le continent ». Dans les faits, c'est toutefois en Europe, comme partout dans le monde, l'anglais qui reste prédominant comme langue commune, disons par défaut, et ce malgré la défection de nos amis britanniques en 2022.
Alors, vous parlez de langue commune, il y a eu, je crois, des tentatives dans ce sens-là ?
Oui, l'espéranto. Une langue d'ailleurs pas exclusivement européenne, mais véritablement internationale, imaginée dans les dernières années du 19e siècle par Louis-Lazare Zamenhof, un médecin ophtalmologiste polonais né dans une petite ville de l'Empire russe dans laquelle au moins quatre langues étaient parlées. Ça y prédisposait. L'espéranto est dans son esprit une langue n'appartenant à aucun pays dominant, sans lien avec aucune nation, élaborée avec un vocabulaire et une grammaire simples qui facilitent son apprentissage. Il connaît rapidement le succès et est encore pratiqué par quelques milliers de passionnés dans le monde et dans des associations militantes qui en assurent la promotion et ont même proposé qu'une épreuve facultative d'espéranto figure au baccalauréat français. C'est toutefois une langue fabriquée, sans assise culturelle solide, mais qui porte tout de même l'idéal, certains diront l'utopie, d'une langue universelle.
Mais c'est toutefois, d'après ce que vous nous en avez dit, le multilinguisme donc qui est favorisé par l'Union européenne.
Le plurilinguisme plutôt, c'est-à-dire la faculté pour un individu de pratiquer d'autres langues que sa langue maternelle. Dans le cadre de son action visant à promouvoir la mobilité et la compréhension entre les cultures, l'Union européenne a fait de l'apprentissage des langues une priorité et elle finance de nombreux programmes et projets dans ce domaine, notamment dans le cadre du programme Erasmus+. Un Erasmus qui est, soit dit en passant, un outil formidablement efficace pour l'apprentissage des langues étrangères. L'un des objectifs de la politique linguistique de l'Union est en effet que tous les citoyens européens maîtrisent au moins deux langues en plus de leur langue maternelle. Il semble qu'il reste encore du travail à faire.
Un petit peu.
Je voudrais aussi signaler une initiative prise en 2001 par le Conseil de l'Europe et organisée conjointement avec l'Union européenne. Elle consiste en une journée européenne des langues qui a lieu chaque année le 26 septembre. Afin de sensibiliser le public à l'importance de l'apprentissage des langues, des événements sont organisés dans toute l'Europe. Des émissions de radio et de télévision, des cours de langue, des conférences, etc. Et les établissements scolaires sont encouragés, bien sûr, à s'inscrire dans cette dynamique. Voilà, nous avons parlé beaucoup de langues pendant 3 semaines, Sébastien. La prochaine fois, nous nous contenterons d'une seule. Le suédois.
Et je vous rassure, on le fera en français et il n'est pas impossible qu'une petite visite dans ce studio nous accompagne, mais ça, et pour le savoir, il faudra revenir nous voir la semaine prochaine. Est-ce qu'on terminerait pas, du coup, pour rester dans la thématique, sur un bonne semaine version espéranto ?
Vous voulez que je vous dise bonne semaine en espéranto ?
Ça se tente.
Ah, allons. Eh bien, je vais tenter. Bonan semainon.
Il est parfait. À la semaine prochaine.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Gergé-Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.